Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour, comme chaque mercredi à 16h, l'émission consacrée à l'université Campus Lille Info. Aujourd'hui, on va parler de développement durable. On va profiter d'une semaine particulière puisqu'il s'agit de la semaine européenne du développement durable, donc qui a démarré là, et qui se terminera le 5 juin. Pour nous parler de cet événement, eh bien, j'ai invité la vice-présidente de l'Université de Lille, chargée de la vie du campus et qui est bien au fait de ces problématiques d'environnement, puisqu'il s'agit de Madame Sandrine Rousseau. Bonjour Madame Rousseau.
Bonjour.
Alors, on peut dire que l'environnement, c'est quelque chose qui est a priori maintenant intégré dans nos réflexions, tant en recherche que dans notre vie pratique. On est quand même un peu plus sensibilisé qu'avant aux problèmes environnementaux.
Ah bah, j'espère, oui. Alors, parce qu'ils sont importants, donc il faut qu'on y soit sensibilisé pour bien réagir.
Oui. Alors, visiblement, du côté européen, ça se concrétise, on va dire. Du côté américain, on sent des tendances bizarres parfois, des régressions.
Oui, aux États-Unis, on voit des régressions, parfois aussi en France, hein, sur certains aspects. Il y a eu des votes récemment là, sur le glyphosate, par exemple, qui montrent qu'il y a beaucoup de prudence. Minimal, beaucoup de prudence sur les questions environnementales. Mais c'est un processus long et puis j'espère qu'à un moment donné, il y aura une prise de conscience réelle des enjeux parce que c'est une question de santé, c'est une question de confort, mais aussi une question de cadre de vie, de qualité de vie. Donc il faut qu'on change de modèle, oui.
On voit aussi des super groupes qui se constituent. Je pense à Bayer, Monsanto qui fusionnent là et donc qui récupèrent un peu tout le patrimoine de choses un peu comme le glyphosate ou d'autres qui vont donc s'appeler autrement peut-être sur le marché, mais finalement les molécules seront peut-être aussi
avec
dangereuses.
Avec cette puissance-là, peut-être aussi qu'ils pourront nous trouver justement de quoi survivre sans pesticides et sans médicaments, mais voilà, c'est le pari qu'il faut faire. De toute façon, on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Les chiffres sur l'emballement du dérèglement climatique sont d'année en année pire, les nombres de produits chimiques que l'on a dans le sang sans même le savoir est considérable. On est face à de nouvelles pollutions comme les perturbateurs endocriniens que l'on ne connaissait pas. Et puis, sur l'île, un mois comme aujourd'hui, on est aussi dans des pics de pollution à répétition, puisque là, depuis le 22 avril, on a reçu 11 alertes pour pics de pollution. Donc voilà, c'est aujourd'hui, soit on décide de vivre en bonne santé, dans un environnement sain, et du coup aussi dans un environnement de qualité, soit on continue à se mentir à nous-mêmes, mais dans ces cas-là, il ne faut pas non plus s'étonner, il ne faut pas voilà, être surpris du fait que les cancers explosent, que il y a de nouvelles maladies dont on n'arrive pas à expliquer les causes, comme l'autisme qui se développe de manière incroyable. Peut-être que finalement tout cela est lié et peut-être qu'une partie de nos cancers est une partie environnementale. Donc aujourd'hui, se préoccuper de ça, c'est se préoccuper de nous.
Alors, il y a 15 jours, nous avons fait dans cette émission un thème, nous avons parlé du lobbying en France avec Guillaume Courty qui a écrit ce livre « Le lobbying en France » et qui est professeur en sciences politiques d'ailleurs à l'Université de Lille. Donc on a bien parlé des lobbies. Hein. Est-ce que dans ce cadre-là, on parlait tout à l'heure de grandes entreprises qui pesaient parfois sur des décisions européennes et aussi en France bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer des lobbies inverses qui vont influencer justement ces gros groupes hein, pour justement leur apporter une éthique dans le projet?
Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens s'organisent. Il y a quand même de plus en plus, particulièrement chez les jeunes, on voit de plus en plus de jeunes, des étudiants qui refusent un peu, par exemple, le système de consommation, qui décident d'être dans une société sobre et dans une organisation de vie sobre. Et puis après, il y a aussi des systèmes comme le système de pétition qui permet de saisir l'Europe, par exemple, quand un sujet récolte suffisamment de signatures de suffisamment de pays. Tous ces dispositifs-là sont des dispositifs nouveaux et ils permettent peut-être, ou du moins ils peuvent permettre, de faire contrepoids à des géants industriels. Puis après, il y a tout ça, puis il y a aussi la raison et le bon sens de grand-mère qu'on pourrait aussi utiliser pour dire, mais en fait, nous-mêmes, en tant que consommateurs, en tant qu'acteurs, on peut changer les choses si on n'utilise plus de produits chimiques nous-mêmes. Eh bien, probablement que ces géants des produits chimiques, un jour, auront les jambes fragiles, quoi. Donc, ça dépend aussi de nous. Ça dépend de chacun de nous. Ça ne dépend pas que de nous, mais ça dépend aussi un peu de chacun de nous.
Alors, les informations sur les produits qu'on utilise, c'est vrai qu'il y a des étiquettes derrière, hein. Pas toujours facile de s'y retrouver. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir en grand les composants qui seraient dangereux, par exemple, plutôt que les mettre en tout petit, je ne sais pas combien ?
Ça fait partie des batailles énormes qui sont menées au sein de l'Europe et un peu partout. Dans toutes les assemblées, on a eu un exemple de bataille sur ce sujet dans l'Assemblée nationale française il n'y a pas longtemps, quand il s'agissait de faire un étiquetage de la dangerosité des produits alimentaires, par exemple. Un étiquetage simple. Et ça a été refusé par notamment sous la pression de l'industrie. Cependant, il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est-à-dire que le mieux, peut-être, c'est de lire le moins possible d'étiquettes et d'acheter des produits qui sont non transformés, parce que sur des pommes, des fruits, des légumes, vous avez assez peu d'étiquettes, il suffit juste de voir d'où ça vient et si c'est agriculture conventionnelle, raisonnée ou bio. Et sur cette base-là, déjà, en fait, vous pouvez changer considérablement les choses, et puis après... Il y a plein d'autres choses comme la consommation de viande ou des choses comme ça qui peuvent aussi être des leviers assez importants de changement de système.
Alors, j'ai une personne qui a essayé de me démontrer. Je n'ai pas eu exactement la confirmation de la réalité de ce qu'il présentait, mais il disait si on arrête de manger de la viande, il faut cultiver beaucoup plus d'espace pour avoir des végétaux, et donc tout ça, ça prend sur l'espace disponible de culture, et finalement la viande, c'est encore ce qui reviendrait le moins cher en termes de valeur ajoutée.
Non, mais après, c'est toujours pareil. La question, c'est pas de supprimer complètement la viande, peut-être pour beaucoup, parce que peut-être que pour beaucoup, il y a besoin de viande, même s'il y a des modèles qui montrent quand même qu'on arrive à vivre sans viande. Mais c'est juste de la diminuer. Il faut se souvenir quand même que nos parents ou nos grands-parents ne mangeaient de la viande qu'une fois par semaine. C'était quand même très courant, cette situation-là. Aujourd'hui, on en mange deux fois par jour, le plus souvent. Donc c'est trop. Manifestement, c'est trop. Puis c'est pas très bon pour la santé, ça génère du cholestérol. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à... Il faut retrouver de la raison, en fait, dans ce que l'on fait et du sens.
C'est sûr qu'avant la guerre, dans notre région, on mangeait beaucoup moins de viande et qu'après la guerre, peut-être qu'il y a eu une volonté de consommer, surconsommer. Il fallait que les bébés soient gros, déjà.
Oui, il y a eu ça, puis il y a eu toute une politique agricole, mais quand on regarde le mode d'alimentation de nos grands-parents, finalement, il y avait une tranche de lard dans les soupes, éventuellement, mais c'était même pas systématique. Pour autant, ils n'étaient pas en mauvaise santé, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions d'hygiène, il y avait un accès à la santé qui était plus compliqué que pour nous, mais ils n'étaient pas, ils n'étaient pas en déficience et en carence. De manière majeure en tous les cas. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a aussi une partie de la population qui est en surpoids, en surdosage. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre ces deux modèles-là. De toute façon, en fait, quand mes enfants étaient petits, ils écoutaient un livre qui disait « Mais qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à la naissance ?» Je trouve que ça résume un peu la politique écologique qu'on doit mettre en œuvre, y compris dans une université comme l'Université de Lille. C'est « Qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à la naissance ?» Et retrouvons ce bon sens, simplement ce bon sens. Et dans ces cas-là, tout va aller bien. Et ça ne demande pas de changement si majeur qu'il n'y paraît.
Voilà, mais c'est vrai que... Quand moi je suis né, à ma naissance, il fallait être gros, et la preuve, je suis encore gros. J'ai retrouvé mon poids fantasmé par mes parents.
Oui, il y a des représentations autour du corps et de la bonne santé qui évoluent en fonction des époques. Pendant longtemps, quand la famine était présente, eh bien, il fallait être gros parce que c'était signe de bonne santé, c'était signe de richesse sociale aussi. Après, quand on a connu des périodes de rachitisme liées à des carences en vitamines, notamment après les guerres, pour les enfants qui sont nés après les guerres, évidemment qu'un enfant joufflu et rond était un enfant qui respirait la bonne santé. Mais aujourd'hui, un enfant qui est trop gros, c'est aussi un enfant qui est en situation de possiblement d'obésité dans sa vie, donc de diabète. Donc, et voilà, il faut changer aussi les représentations, mais ces représentations-là, elles sont en fonction du temps. Et après, il y a aussi toute une question d'accès à la nourriture saine, par exemple, ce qui est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'à l'université, on essaye d'avoir une politique d'accès à la nourriture saine qui soit gratuite. Complètement gratuite.
On a entendu parler là de mesures qui vont être prises pour favoriser le bio dans les cantines scolaires. Est-ce que cela va aussi avoir une influence pour les restaurants universitaires, par exemple ?
Alors, dans la loi, les restaurants universitaires ne sont pas inclus. Cependant, on travaille déjà avec le CROUS depuis plusieurs années pour que la part de bio augmente dans les repas que les étudiants consomment sur les campus. Il se trouve que le CROUS fait des efforts très importants et dans des contraintes qui sont réelles parce qu'ils ont un coût de repas qui est très faible. Et donc, ils font des efforts. Après, il y a un effort à faire encore d'étiquetage parce qu'on ne sait pas toujours qu'on mange bio au CROUS alors qu'on mange parfois des aliments bio. Et puis, surtout, ce qu'on a décidé de mettre en place à l'échelle de l'université, c'est ce qu'on appelle des campus comestibles. Hein, ça, le principe est très simple, c'est de dire on a des espaces de verre, du terrain, sur ces campus, sur l'ensemble des campus de l'Université de Lille, à peu près, et sur ces espaces-là, plutôt que de planter des arbres, eh bien, plantons des jardins potagers avec des petits pois, des haricots, plantons des vergers avec des pommes, des poires, des noix, et ouvrons ces jardins pour que chacun puisse cueillir des tomates, aller chercher des pommes, et que ce soit totalement gratuit. Et ça, le jour où vous ramassez par exemple des tomates, eh bien, vous pouvez vous faire une salade de tomates complètement bio, parce qu'on l'a planté on est en train de le planter sur des terrains qui sont complètement vierges de pesticides. Donc ce sont des tomates bio que vous pouvez faire dans votre assiette et ça ne vous coûte absolument rien. Donc voilà, c'est à la fois pour les étudiants qui n'ont pas les moyens, mais c'est aussi se dire, mais en fait, retrouvons le bon sens, on a de l'espace, on a du terrain, et pourquoi ne pas simplement planter des espèces qui se mangent ?
Alors, on a parlé tout à l'heure de pollution. Est-ce que la pollution de l'air influe éventuellement sur la qualité des produits bio produits en région ?
Bah, la qualité de l'air, elle impacte un peu, mais pas tant sur les cultures, c'est pas là-dessus qu'elle impacte le plus. La pollution de l'air, elle a surtout un impact sur notre santé, puisque en fait, quand on parle de pollution de l'air, on parle de particules très fines, qui sont des particules qui rentrent à l'intérieur des poumons et qui passent par les bronches vers le sang. Et ces particules fines, elles ont plusieurs conséquences, c'est-à-dire que soit elles peuvent créer une inflammation des bronches, donc c'est l'asthme, les déficiences respiratoire. Au passage, elles peuvent aussi générer des inflammations des sinus. Et qui dit inflammation dit risque de cancer accru en plus au bout d'un moment. Et puis, quand elles traversent le sang, elles génèrent aussi des accidents vasculaires cérébraux. Donc, on ne voit pas tout de suite qu'on est victime de pollution parce que ça ne se voit pas immédiatement, mais ça a un impact très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France s'est faite épingler par l'Union européenne. Elle doit passer devant la Cour de justice européenne parce que la Cour de justice européenne estime que en ne prenant pas de mesures fortes contre ces particules fines et contre ces pollutions, les pouvoirs publics mettent en danger la population française. Donc c'est intéressant cette démarche parce qu'elle dit que voilà, pour la santé publique, pour protéger les populations, il y a un impératif qui est de gérer ces pics de pollution. Et là, aujourd'hui, par exemple, on est en pic de pollution.
Est-ce que, de son côté, l'Europe fait ce qu'il faut pour que les producteurs de véhicules, notamment, produisent moins polluants et ne trichent pas aussi sur ce qu'ils déclarent ?
Alors, l'Europe a mis en place des normes sur les véhicules qui sont des normes très restrictives. Ce qui s'est passé, c'est que les constructeurs automobiles, au lieu de mettre en place la recherche et développement qui leur aurait permis de respecter ces normes, on préférait mettre en place de la recherche et développement pour mettre des logiciels de triche à l'intérieur des voitures pour démontrer qu'elles respectaient les normes alors qu'en fait elles ne les respectaient pas. Et donc là, ces constructeurs sont aujourd'hui aussi condamnés, enfin il y a des procédures contre eux au niveau européen. Donc c'est pas tant l'Europe que le fait que les constructeurs n'ont pas respecté les normes européennes.
Ça pose aussi la question du contrôle.
Tout à fait.
Des process, notamment de production.
Alors, le contrôle des process de production et puis le contrôle qui ne soit pas un contrôle fait par les constructeurs eux-mêmes dans certaines conditions. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait réussir à faire sur les véhicules, c'est que les contrôles soient faits dans des conditions normales d'utilisation sur la route et tout au long de la vie d'un véhicule. Parce qu'un véhicule, quand il est mis sur le marché, peut émettre un certain niveau de pollution. Et puis, plus ce véhicule vieillit, plus ces systèmes de réglementation de la pollution deviennent obsolètes. Et donc, ils polluent davantage. Alors, il y a quelques contrôles qui sont prévus, notamment dans le cadre du contrôle technique. Mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus. Mais ceci, ce n'est pas, encore une fois, que ça. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, il faut accepter de se dire que peut-être aujourd'hui, je n'utiliserai pas de voiture parce que finalement, la meilleure non-pollution, enfin, la meilleure absence de pollution, c'est quand même le fait de ne pas enclencher le moteur d'une voiture.
Donc ça, c'est évidemment une question peut-être aussi un peu de mode, hein, puisque fut un temps où pour être considéré, il fallait avoir une belle voiture. Ça, c'est quand même quelque chose qui tombe en désuétude ou pas ?
Bon, je sais pas, je me rends pas trop compte, je suis pas sociologue en plus, mais en tous les cas, là, aujourd'hui, avoir une grosse voiture en ville, ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est difficile de trouver des places, c'est difficile de circuler. Et donc, je pense que le modèle de la voiture est en train de changer. Mais maintenant, peut-être qu'il faut aussi qu'on aille plus loin dans ce modèle de la voiture. Là, avant de venir vous voir, on discutait d'un plan de déplacement sur la zone du CHU, puisque vous savez qu'il y a plusieurs facultés qui sont là-bas, la faculté de pharma, de dentaire, de médecine, et il y a des hôpitaux. Et donc, c'est une zone qui est très tendue en matière de stationnement et en matière de circulation des véhicules. Et on se disait, mais c'est quand même étrange que des étudiants circulent dans des voitures tout seuls, alors qu'il y a 5 places dans une voiture ou 4 place au minimum, on pourrait mettre 4 personnes. Et là, ils sont seuls dans leur voiture et du coup, ça génère autant de pollution que de voitures utilisées de cette manière. Et on se disait, mais il faut travailler à un système d'incitation, un système de récompense en quelque sorte, qui fasse que les gens soient incités quand ils démarrent leur voiture, juste à poser cette question autour d'eux, par exemple dans le Learning Center qui est là-bas, poser la question autour d'eux, dire « je pars, qui veut que je le dépose à la station de métro ?» Parce que si on fait ça, eh bien, on limite déjà le nombre de voitures et de manière, encore une fois, de bon sens, de simple bon sens. Parce que ce qui fait peur souvent aux étudiants, c'est juste le trajet entre le Learning Center et la station de métro.
Donc, il y a déjà des solutions de covoiturage et je pense que cette période de grève que nous traversons amène à avoir parfois des solutions nouvelles pour certains qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les logiciels ou les applications sur leur téléphone portable. On peut maintenant trouver des gens relativement proches de chez soi qui peuvent être disposés à partager la voiture qu'ils empruntent.
Ah, mais je pense que ça, c'est vraiment... C'est une petite révolution lente et douce, mais qui est en train de se faire. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où finalement on partage les voitures et puis j'ai l'impression que la société où on achète quelque chose, par exemple une ponceuse, on achète une ponceuse ou une perceuse et puis on l'utilise une fois dans l'année encore, peut-être même pas une fois dans l'année, eh bien ce modèle-là il est en train de se transformer en un modèle où des habitants d'un quartier décident ensemble d'acheter une perceuse et puis ils se répartissent l'usage de la perceuse. Et pareil pour les voitures, je pense que petit à petit on arrivera à un usage partagé des voitures. Je ne sais pas comment, je ne sais pas trop si c'est le covoiturage, si c'est des voitures en commun, je ne sais pas quelle forme ça prendra. Mais je pense qu'on ne pourra pas continuer, et en plus parce que les gens n'auront pas forcément envie de faire des trajets où on est seul dans une voiture et où on galère après pendant 20 minutes à tourner en rond pour essayer de trouver une place et puis à la fin on s'aperçoit qu'en plus la vitre est cassée parce qu'on a été cambriolé dans sa voiture. Donc je pense que ce modèle-là il est en train de changer aussi.
Voilà, donc finalement l'écologie peut venir au secours des personnes seules et créer du lien social.
Oui, du lien social, puis des économies. Hein. Quand on a des petits budgets, entretenir une voiture, c'est cher. C'est très cher. Et se dire, Ah bah je vois que le type il est en train de partir, il peut peut-être me déposer à une station de métro, ou la fille elle est en train de partir, elle peut peut-être me déposer simplement à une station de métro. Bah voilà, ça permet d'économiser. Puis ça, voilà, ça permet aussi de ne pas émettre de carbone ou d'en émettre moins.
Donc il y a, je pense, hein, en termes de recherche-développement, de quoi faire en termes de construction, de réalisation de logiciels qui permettent justement ces échanges, favoriser les mises en commun de moyens, d'objets, d'outils. Voilà. On n'est qu'au début d'une aventure, visiblement. Avant, on était plutôt sur un certain égoïsme et une individualisation, voire un individualisme forcené. Là, on est peut-être sur une notion de partage. C'est intéressant, l'idée.
Je pense que cette notion de partage, elle prend vraiment du poids dans la société. Alors, pas partout, ça se diffuse un peu par bulle, je dirais, mais elle prend du poids indéniablement dans les étudiants que j'ai. D'année en année, la proportion de ceux et de celles qui se disent, ben, plutôt que de posséder, partageons, et plutôt que d'être dans un modèle de consommation et de croissance, soyons dans une forme de sobriété, cette proportion d'étudiants-là progresse vraiment nettement. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, oui.
Voilà.
Après, quand est-ce que ça sera visible, ça? Mais des initiatives, il y en a partout, et des belles en plus, des très belles.
Alors, dans notre région, on a vu fleurir les vélos libres, on va dire, hein, sachant qu'il y avait des zones pour les prendre et d'autres pour les déposer. Il y a aussi les vélos qu'on pouvait déposer à peu près n'importe où. Ceux-là ont eu un peu moins de chance, hein.
Oui, ils ont été dégradés à un point où l'entreprise a arrêté. Je pense qu'elle a fait faillite, ou du moins elle a restreint son périmètre. Après, ça, ces nouveaux modèles de consommation, ils en appellent aussi à une forme de civisme, c'est-à-dire qu'on respecte le bien commun, puisque maintenant un vélo, ça devient un bien commun, donc il faut respecter ce bien commun. Mais ça aussi, ça se travaille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand on voit dans des pays qui sont très proches, même juste la Belgique qui est tout à côté de chez nous, il y a un civisme qui est beaucoup plus répandu, manifestement au moins sur des vélos partagés comme ça. On se dit, bah donc si eux peuvent le faire, nous pouvons le faire.
Alors, on pourrait le faire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens respectent mieux justement les matériels qui sont faits pour les aider, en fait? C'est de l'éducation ou de la coercition?
À mon avis, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, c'est de la formation, c'est se dire que le vélo qu'on dégrade, on ne l'aura pas le lendemain pour pouvoir l'utiliser. Et puis, c'est aussi un peu de coercition, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des formes de pénalité à dégrader du bien commun. Mais bon, après, à chaque fois qu'un nouveau modèle essaye de se mettre en place, il y a toujours une phase où les gens, ne comprenant pas ce modèle, s'attaquent un peu à lui. Et je pense que les vélos, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Les gens ne comprennent pas trop ce modèle. Donc certains, une minorité sans doute, ont pris ces vélos et ont voulu les dégrader. Après, quand on va dans des pays comme l'Angleterre, qui a à peu près la même sociologie que notre pays, il y a des vélos en libre-service qui sont tout à fait enfin, qui fonctionnent, et qui fonctionnent très bien. Donc voilà, il y a une première tentative qui s'est mal passée. Pardon, peut-être que la deuxième sera la bonne.
Alors, avant de lancer une opération telle que celle-là, hein, développer en masse les vélos dans les villes, on va dire, d'une manière générale, est-ce qu'il y a des études sociologiques qui sont faites sur si on mettait ça en place, qu'est-ce qui se passerait? Là, on est sur un test grandeur réelle où ça s'est mal passé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le système refonctionne comme base minimale pour que ce soit un succès?
On est en train de réfléchir. Alors, ça fait un moment qu'on y réfléchit, puis on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, les gens peut-être s'impatientent, mais on est en train de réfléchir à mettre en place un système sur certains campus de trottinettes qui soit sur le même modèle que les Vélil, en se disant, ben, utilisons, parce que les trottinettes, ça prend moins de place qu'un vélo, donc utilisons des trottinettes pour faire des courts trajets d'un point à un autre. Et donc, révolutionnons aussi notre rapport à la mobilité. J'espère qu'on va y arriver parce qu'en tant qu'université, on a aussi un rôle de prescripteur sur ces nouveaux modèles. C'est-à-dire que l'université, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu de formation, c'est un lieu où il y a énormément de gens chez nous qui vont être les cadres de demain, ou les décideurs de demain, ou même les citoyens voilà, déjà d'aujourd'hui et de demain. Et toutes ces personnes-là, peut-être qu'en tant qu'université, on ne leur donne pas suffisamment de moyens d'imaginer un avenir différent. Peut-être que s'ils vivaient sur des campus où les toits des bâtiments sont couverts de panneaux solaires, où on peut recharger son portable grâce à un vélo, voilà, grâce à juste un pédalier et qu'on branche son téléphone portable et qu'on le recharge comme ça. Peut-être que s'ils voyaient sur des campus, plutôt que d'immenses parkings, des lieux de circulation apaisés où tout, chacun vient avec son mode de circulation douce, eh bien, il repartirait avec l'idée qu'une ville pourrait s'organiser aussi de cette manière-là. Donc, de ce point de vue-là, je fais notre mea culpa collectif, c'est que, sans doute, n'allons-nous pas assez loin dans les nouveaux modèles que l'on pourrait imaginer. Et voilà, il faut aussi qu'on arrive à trouver les fonds pour installer ces modèles, mais en tous les cas, on a un rôle à jouer, c'est indéniable.
Pour inciter les gens à utiliser un vélo, ou pourquoi pas même un vélo électrique. Hein. Il y a depuis des années en Chine des vélos qui fonctionnent en étant aidés par l'électricité en plus, hein, ce qui soulage quand même les personnes qui ne sont pas forcément en capacité d'avoir de grandes performances motrices, pour résumer. Donc, on est en train d'imaginer, peut-être que ça a commencé d'ailleurs, d'aider les personnes qui utilisent ces moyens de vélo, hein, comme un peu ça a été fait avec les abonnements TER, de proposer à leur employeur hein, de payer en quelque sorte, par des indemnités kilométriques, le transport lié au vélo ou au vélo motorisé.
Alors ça, j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux auditeurs, c'est que la décision doit passer, la proposition que nous faisons de mettre en place cette indemnité kilométrique vélo pour les personnels de l'université va passer en conseil d'administration de juillet normalement, et donc j'invite les conseillers à voter pour, parce que c'est une indemnité, alors c'est 200 euros par an, et ça permet d'encourager en quelque sorte l'usage du vélo. Et donc voilà, c'est tout simple à mettre en œuvre, et ça par exemple, on y travaille déjà, et j'espère vraiment qu'en septembre, ce sera complètement opérationnel.
Voilà, donc ça c'est pour les personnels, bon pour les étudiants, on n'y est pas bien sûr.
Alors pour les étudiants, c'est plus compliqué parce que pour l'instant, il n'y a pas de mesure qui pourrait nous permettre de le faire. Il n'y a pas de texte législatif, il n'y a pas de loi qui nous permette de le faire. Cependant, il y a quand même des mesures incitatives que l'on pourrait prendre. Notamment, par exemple, un truc simple, c'est de faire des parkings à vélo sécurisés. Et donc voilà, ça, il faut qu'on y travaille, bien sûr.
Pour les journées d'immersion, les JV, etc., est-ce qu'on peut imaginer une petite démonstration de parc de vélo qui permettrait aux gens de faire des choix dans l'année ?
C'est à peu près dans chaque événement, il y a des ateliers comme ça de démonstration, d'essais, parce qu'une trottinette, par exemple, c'est bien de l'essayer avant pour savoir si on est à l'aise dessus ou pas. Donc ça, ça existe. Après, il faut le développer, sans doute. Et sur Cité Scientifique, là où Radio Campus est installé, il y a un atelier vélo qui se met en place, qui est un atelier où vous pouvez venir et faire les réparations de votre vélo. Donc c'est au SH4, c'est juste à l'entrée de Cité Scientifique, à côté de la station de métro. Et il y a des permanences, là maintenant c'est à la rentrée, mais il y a des permanences qui sont affichées pour, voilà, vous pouvez venir faire réparer complètement gratuitement votre vélo. Et ça, c'est chouette parce qu'un vélo qui fonctionne, c'est quand même plus pratique. Et le faire réparer et apprendre surtout à le réparer, c'est encore mieux.
Alors tout cela, c'est un plan d'ensemble hein, de l'Université de Lille. Sandrine Housseau, vous y contribuez forcément. Est-ce qu'on peut imaginer que des personnes se mobilisent avec quelques référents dans l'université pour mieux préparer la rentrée à ces problématiques ?
Oui, on va lancer un appel à des référents développement durable dans chaque faculté ou UFR ou UFR pardon. Et donc je vous invite vraiment à candidater parce que plus on aura de relais sur le terrain et plus on pourra développer une politique intéressante de ce point de vue-là. Donc voilà, on a besoin de vous tous. Venez.
Voilà, et on se retrouve où alors à la rentrée aux journées d'immersion?
Eh bien, retrouvons-nous aux journées d'immersion à la rentrée.
Parfait, merci Sandrine Rousseau, et merci. J'allais dire bonnes vacances.
Ah non, pas encore. J'aimerais, mais pas encore. Bon.
Alors, bonne continuation pour développer ces projets. Et puis, à chacun de se mobiliser. On sent bien qu'on vit un monde qui change aussi dans la prise de conscience.
Tout à fait.
Profitons-en.
Profitons-en.